Message qui m'animait, le cœur malsain, que t'as porté bien des heures, tu te
silence.
Vous êtes toujours sur Radio Entre-deux-Mers et c'est l'heure de votre conversation autour du cinéma. Et on est avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Thibaut. J'espère que tu vas bien. Oui.
Bah écoute, ça va très bien.
Bon, tu vois, je dis oui avant d'attendre ta réponse parce que je suis sûre que tu vas bien. Je le sens à ta voix. Hein. On le sent quand même à la voix quand quelqu'un va bien. Hein. Bah, quand même. À la radio surtout. Hein, la voix, il n'y a pas de doute.
Bah oui.
Bah tiens, et bonjour, bonjour chers auditeurs aussi, j'espère que vous allez bien vous aussi, et puis merci de nous recevoir chez vous et d'être si fidèles à notre radio entre deux mers. Eh bien oui, dis donc, tu sais pas, on va commencer par, alors ça, ce sont des personnages que j'adore absolument, c'est de l'animation, mais c'est extraordinaire, moi je les adore absolument, mais vraiment, hein, quand je le dis c'est vrai, Ernest et Célestine. Alors là, on a Ernest et Célestine, deux points, le voyage en charabie. Et oui, ah là là, ils sont absolument adorables, c'est génial cette série. Tu connais toi Ernest et Célestine? Ça te dit quelque chose?
Ça ne dit rien du tout. Non,
ça ne dit rien du tout. Eh bien écoute, franchement, tu devrais au moins en voir un, parce que ça, il y en a eu un, ça, c'est le deuxième long métrage. Franchement, si tu as l'occasion, essaie de voir quelques images quand même. Tu verras comme c'est adorable, absolument. C'est à partir de 3 ans. Enfin, là, il n'y a pas d'âge après. Hein. Ça dure, alors là, pour le voyage en charabie, ça dure 1h19. Donc, j'ai bien dit, hein, l'animation, c'est pour la famille, absolument. Alors, il y a deux co-réalisateurs, là. Il y a Julien Cheng, qui est un réalisateur, animateur, producteur, délégué français. Il a 10 ans de carrière, 7 tournages. Et il travaille depuis le début avec Jean-Christophe Roger, qui est réalisateur, concepteur de storyboard, les scénaristes français. Il a 11 ans de carrière et 6 tournages, voilà. Donc, on leur doit en tout cas, enfin, c'est pas eux, parce que c'était pas eux à ce moment-là, les réalisateurs, mais on peut voir Ernest et Célestine, qui est sorti en 2012, 1h16, c'était toujours d'ailleurs à partir de 3 ans. Il y a eu également, effectivement, Ernest et Célestine en hiver, tourné en 2016, mais qui durait 45 minutes. Donc, c'était un moyen métrage, disons, hein, à partir de 3 ans également. Alors, Ernest et Célestine, oh là là, qui sont, ben, c'est la suite, hein, d'Ernest et Célestine dont je viens de parler, là, sorti en 2012. C'est absolument la suite. Et, celui-là, je sais pas si j'ai dit ici, 1h19, je l'ai dit, hein. Alors là, il s'agit de quoi? Ah ben, j'aurais voulu dire quand même que, alors, on explique quand même. Surtout, bah, pour toi, puisque tu connais pas, et puis des auditeurs qui connaissent pas. Ernest, c'est un gros ours marginal. Il est clown et il est musicien. Et il a accueilli chez lui la petite Célestine, qui est une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. La petite Célestine, c'est une petite souris. Alors, ces deux solitaires se soutiennent, se réconfortent et basculent ainsi l'ordre établi. Parce que, effectivement, dans ces histoires-là, on n'a jamais une petite souris comme copine. Eh ben, là, oui. Eh ben, c'est Ernest, voilà, Ernest et Célestine. Ça, c'était en 2012, justement, et qui disait d'ailleurs, on pouvait lire « Seule leur amitié pourra libérer la musique ». Et là, il y avait les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Rousseau. Et là, on va retrouver, justement, dans le voyage en Charabie, on va retrouver les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner. Alors, évidemment, on a deviné, Pauline Brunner, c'est la petite Célestine, et Lambert Wilson, c'est Ernest, notre gros ours sympathique. Et ça, à l'époque, c'était titré d'ailleurs un ravissement, de bout en bout, une petite merveille, superbe, un joyau. Alors, c'est tiré, Ernest Célestine, des albums de Gabriel Vincent. Gabriel le Vincent, voilà. Alors là, on va dire que Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest. Le pays d'Ernest, c'est la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Voilà pourquoi on parlait de musique. Il découvre alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique. Pour nous aussi d'ailleurs, hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas Thibaut? C'est difficile de vivre sans musique.
Ah oui, c'est clair.
Voilà. Accompagné de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Voilà pourquoi on disait que seule leur amitié pourra libérer la musique, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, pour construire le pays d'origine d'Ernest, le Jean-Christophe Roger, un des réalisateurs, là, c'est-à-dire le pays d'origine d'Ernest, c'est la Charabie, hein, qui est un pays imaginaire, évidemment. Hein. Donc, Jean-Christophe Roger s'est inspiré de ses souvenirs de voyage dans le nord du Pakistan et de la Chine, sur la route de la soie. Voilà. Alors, cet ours-là et cette petite souris habitent dans un village, c'est un petit village français ou belge d'ailleurs. Et, ah, au fait, la chanson du film est interprétée par l'autre compositrice Pomme. Est-ce que ça dit quelque chose?
Thibaut? Oui, Pomme, je connais, oui.
Voilà, et bien c'est elle qui interprète la chanson, qui l'a composée, qui interprète la chanson du film, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on fait de l'amour ?» Ah là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau comme tout, vraiment. C'est des personnages, moi, que je trouve extraordinaires, et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, Ernest et Célestine. Les dessins sont formidables, ils sont beaux, les dessins, beaux comme tout, vraiment. Ernest et Célestine, à voir mes chéris, emmenez vos enfants et allez regarder Ernest et Célestine. C'est un duo qui revient dans les salles, un duo célèbre quand même, qui revient dans les salles sous la houlette de nouveaux réalisateurs justement. Alors il y a quoi? Ben, malice, fantaisie et générosité. Alors on nous dit que l'attente en valait la peine, l'attente de ce deuxième long métrage, Ernest et Célestine. Ah. Ma foi, c'est mon gros coup de cœur quand même, hein, ça c'est clair. Tu l'avais compris peut-être, Thibaut, que c'était mon gros coup de cœur, n'est-ce pas?
En tout cas, je peux en faire profiter les personnes qui nous écoutent avec une bande-annonce.
Merci, j'allais te la demander.
Il n'y a même pas besoin.
Il n'y avait pas besoin.
Donc la bande-annonce de Ernest et Célestine, le voyage en Charabie.
Voilà.
Allez en Charabie.
Ernest, allez, en route pour la Charabie.
Ah, Célestine.
C'est ça la Charabie, ton pays natal.
La Charabie, Célestine. Tu vas voir, c'est tout le temps la fête. Il y a de la musique partout. Et ça, c'est la devise de la Charabie. C'est comme ça et pas autrement.
Police musicale. Utilisation de notes interdites. Vous êtes bon pour la prison, mon vieux.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Vous faites encore la chasse aux notes?
Mi fa sol, ceci, c'est le...
maintenant, il n'y a plus qu'une seule note autorisée. Mais c'est complètement absurde. C'est comme ça et pas autrement. Surveillez-le, peut-être qu'il va nous mener à Mi-Fa-Sol.
Mais quand même, c'est de votre fils.
Un musicien.
Oh, Mi-Fa-Sol, recherché pour résistance musicale.
Mot de passe.
Eh ben j'en sais rien moi.
C'est pas le mot.
On peut pas partir. La résistance musicale a besoin de nous, Hermès.
Je décide.
Qui cherche les notes trouvera la mélodie.
C'était la bande-annonce de Ernest et Célestine.
Oui.
Donc maintenant, on va passer
oui.
à un autre
film. On va passer à autre chose. Oui. Ah, je voulais quand même ajouter pour Ernest et Célestine qu'ils ont travaillé avec le scénariste, enfin, il a travaillé avec eux, Daniel Pénac, scénariste bien connu dans le monde du cinéma. Voilà. Je voulais ajouter ça. Alors là, on va passer à toute autre chose. Oh, j'aime bien le titre. Mon héroïne, ça s'appelle. C'est une comédie. Une comédie de Noémie Lefort. Noémie Lefort, réalisatrice, dialoguiste, auteure, actrice française. C'est son premier long métrage. Je voulais absolument pas passer à côté, justement, parce que c'est son premier long métrage. Alors, de quoi s'agit-il, mon héroïne, quand même? Ben, aussi, on va quand même dire que, voilà, bon, ben, Noémie Lefort a travaillé avec Fadette Drouard, qui est une dialoguiste scénariste française. Alors, ça dure 1h48, cette comédie. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose, réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d'accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec l'aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou, donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointe par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d'une nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais. Mon héroïne. Alors, Alex, c'est Chloé Joanet. On a Mathilde, c'est la maman, c'est Pascal Arbillot. Et puis Juliette, c'est Louise Coldefy. Alors, on a également, oh, c'est un joli casting. Dans ce film, on a Brigitte Fosset, on a Firmine Richard, on a Chris Marquez, on a Zoé Schellenberg, on a Tricia Merrick. Alors, Tricia Merrick, c'est une actrice américaine. Noémie Lefort, la réalisatrice, joue un petit rôle. Elle joue une fan dans ce film. Et puis, on a Alex à 10 ans, qui est joué par Charlie Payette dans les rôles principaux. Voilà. Et c'est d'après une histoire vraie, quand même, hein. Ça, c'est important. C'est une histoire vraie, hein. Mon héroïne. Alors, moi, je voulais absolument en parler, ne pas passer à côté. D'abord parce que j'aime parler des premiers longs métrages. La plupart du temps, on a de très, très belles surprises, hein, avec les premiers longs métrages. Et là, plus que jamais, justement, c'est une très bonne surprise, une excellente surprise. Il faut dire que le casting est quand même, il est quand même de très grande qualité. Alors, Noémie Lefort, en fait, s'est inspirée de sa propre histoire pour ce film, Mon héroïne. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, elle était étudiante en cinéma à Rouen et elle a réalisé un court-métrage intitulé Calling Julia Roberts. En appelant Julia Roberts, qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui voulait donner son scénario à la star américaine. Alors, sur un coup de tête, Noémie Lefort est partie à New York à l'époque où l'actrice américaine a une maison de production. Et c'était dans l'espoir, évidemment, de lui remettre son court-métrage. Voilà. Alors, elle avait réussi à contacter Choles Productions, la société de Julia Roberts, grâce à Théa Dessouza, qui était chargée de lire les scénarios et d'écrire des fiches de lecture. Mais bon, voilà, alors elle a remballé Noémie Lefort en lui disant qu'il y avait un processus à respecter, etc., et que les choses ne se déroulaient pas de cette manière. Alors, elle lui avait dit que la prochaine fois, elle tenterait avec Sandra Bullock, la grande rivale de Julia Roberts. Et oui, donc Noémie Lefort, quand même, elle avait un sacré caractère. Déjà, elle savait ce qu'elle voulait, en tout cas, hein, c'est sûr. Voilà. Et alors, finalement, les membres de la société de production ont visionné et apprécié son court-métrage. Voilà. Donc elle a, quand elle est repassée dans leur bureau, Noémie Lefort a croisé en sortant une femme avec des lunettes de soleil. Il s'agissait de la star américaine. Alors elle nous dit, les portes de l'ascenseur se sont refermées sur son sourire iconique et je suis restée paralysée dans le hall. J'ai décidé de ne pas remonter, de ne pas tout gâcher de ce que j'avais réussi. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait. Ouais. Et donc, du coup, après, quelques mois plus tard, Théa de Souza, là, qui avait fait la lecture, s'est rendue à Paris et elle a donné à la réalisatrice, c'est-à-dire à Noémie Lefort, un cadeau de la part de Julia Roberts, les lunettes de soleil de Coup de foudre à Notting Hill, qui est un film excellent dont Julia Roberts est l'héroïne, bien sûr. Tu connais peut-être au moins le titre, Coup de foudre à Notting Hill.
Oui, parce le titre, je le connais, mais je n'ai jamais vu le film.
Ah, écoute, là, franchement, c'est un film à voir. On a Hugh Grant dedans, qui est magnifique, évidemment. Et c'est un très, très, très joli film, qui vaut la peine quand même. Hein, voilà. Donc, du coup, ben voilà, elle a décidé de réaliser ce film avec Alex, qui est joué par Chloé Joanet, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un premier film, d'ailleurs, tourné à New York, après le confinement. Hein. Le tournage a débuté en France, voilà. Les frontières étaient encore fermées aux États-Unis. Et puis, elles se sont rouvertes à temps. Et l'équipe, du coup, n'a pas eu de temps de préparation sur place. Voilà, ça s'est fait à distance, via Google Maps, comme quoi, hein, c'est quand même bien pratique, y compris le casting des acteurs américains. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On est content de retrouver Brigitte Fossé aussi, quand même, hein, et Firmin Richard. Ah ben oui. Et Chris Marquez, bon, on l'aime bien, Chris Marquez. Ben, tu le connais, le danseur Chris Marquez. Ça doit te dire quelque chose.
Oui.
Voilà, ben, on est content de les avoir, là. Mais oui, et puis les actrices américaines, là, qui sont assez savoureuses également. Voilà, mon héroïne, je ne sais pas si tu avais quelque chose, non, peut-être pas concernant mon héroïne, je ne sais pas. Non.
Non. J'ai pas de bande annonce.
Non. C'est oui. Je suis pas surprise. Je n'en avais pas non plus. J'en avais trouvé une, mais pas en cherchant en fait. Et puis même quand on travaille sur les films, on peut regarder les bandes annonces en version originale. C'est simplement oui. Ça passe pas à la radio, c'est tout. Hein. Voilà. Et puis on arrive à un film très très attendu quand même.
Très en attente.
Qu'est-ce que tu en penses? Allez, je te laisse te dire le titre, tu veux?
Alors, allez, on va laisser un peu de suspense.
Ah
un
bon?
Un film. Ouais, bah oui, quand même.
Bon, alors vas-y, tu dis qu'on a attendu 13 ans. Pourquoi dis-tu qu'on a attendu 13 ans? Pourquoi?
Parce 13 ans d'attente, déjà James Cameron.
Voilà, il s'agit de James Cameron.
Qui met très longtemps pour faire des films et qui sont toujours très très bons.
Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé en 2009 justement, il y a 13 ans?
Ouais. Et qui fut un des meilleurs films au box-office à l'époque et même encore aujourd'hui.
Ah, il a dépassé tout le monde. Tous les films, là, il était largement devant tout ce qu'on a pu connaître. Comme grand succès.
Et si je dois donner un film, c'est Bleu.
Et vas-y, donne-nous le titre. Allez, de 2009.
Eh bien, c'est Avatar.
Voilà, en 2009, on a Avatar, science-fiction aventure qui disait. Alors, celui-là durait 2h42. Hein, et il avait été repris d'ailleurs, il a été repris en septembre 2022. Il a été repris James Cameron, c'était, voilà. Et là, on voyait déjà les personnages d'Avatar. Et cette fois, qu'est-ce qu'on a cette fois? Eh bien, on a Avatar. Voilà, en 2022, 13 ans après, tu l'as dit. Avatar, 2. La voix de l'eau. Ça dure 3h13, c'est-à-dire qu'il est encore plus long que le premier. Toujours de la science-fiction, de l'aventure, du fantastique et de l'action. C'est toujours James Cameron qui est aux manettes. Il a travaillé avec Amanda Silver également pour le scénario. Et là, c'est quoi cette histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements relatés dans le premier film, Avatar, la voix de l'eau, raconte l'histoire des membres de la famille Sully. Alors, il y a Jack, il y a Neytiri et leurs enfants, la famille Sully. Les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent, voilà ce qu'on a dans Avatar, la voix de l'eau. Et oui. Alors évidemment, c'est un phénomène cinématographique, c'est sûr. Je crois que là, tous les cinémas, d'ailleurs, le cinéma de l'Aréole qui fait partie de nos comment, de nos sponsors, si j'ose dire, de la radio,
c'est un partenaire
de la radio. À l'époque, quand cet Avatar est sorti en 2009, il y a eu un monde fou. Il y avait la queue devant le cinéma de l'Aréole, mais une queue mais invraisemblablement longue, comme on n'avait jamais vu. C'est dans tous les cinémas de proximité, de toute façon. Je parle du cinéma de l'Aréole parce qu'à l'époque, j'étais partie de ce cinéma et que je me souviens absolument de tes piles. Mais c'était phénoménal, hein. On a fait des entrées extraordinaires, voilà. Et tous les cinémas de proximité d'ailleurs. Et donc, ça a été quand même un événement incroyable.
James Cameron est quand même le réalisateur de toute la série du Seigneur des Anneaux et du Hobbit.
Oui, et de Titanic aussi, hein. Il a eu plein d'Oscars et plein de nominations pour Titanic, qui est sorti en 1998. C'est un réalisateur, scénariste, producteur canadien. Il a 68 ans, 43 ans de carrière, 56 tournages à son actif, 9 prix, 34 nominations, enfin un tas de choses. Et puis, après cette sortie 2009 d'Avatar, c'est vrai qu'on savait qu'il y aurait une suite, mais ça a été un peu retardé en fait. Les suites ont été retardées énormément. Il y a eu un tas de soucis, et y compris d'ailleurs le virus, hein, y compris tout ce qu'on a eu au point de vue santé aussi, tous les problèmes. Alors il y avait dans le premier, il y avait Sigourney Weaver dans les rôles principaux, il y avait Sam Worthington. Eh bien, on les retrouve là. On retrouve donc Sam Worthington, je viens de le dire, qui joue le rôle de Jack. Hein, là. Et puis on a Zoé Saldana qui joue le rôle de Neytiri, c'est la famille Sully, la famille du premier, la famille du deuxième Avatar. On a alors dans les gens qu'on avait déjà, on a Stephen Lang encore, on a Giovannini, oui, Ribisi, on a Joël David Moore, on a CCH Pounder qu'on avait déjà dans le premier. Alors dans les nouveaux, on a Kate Winslet, c'est l'héroïne de Titanic, hein. On se souvient. Oui, on a Cliff Curtis dans les nouveaux, on a Brittany Dalton, on a Jamie Flatters dans les rôles principaux. Et alors, il faut quand même savoir aussi qu'il y a un troisième volet, enfin, le deuxième volet, donc, là, il est pour le 14 décembre, on va le voir. Le troisième volet est prévu pour le 18 décembre 2024. Le quatrième volet passera le 16 décembre 2026 et le cinquième volet sortira le 20 décembre 2028. Voilà. Alors,
James Cameron attend la fin des entrées du 2 pour pouvoir terminer le 3.
Voilà, le 3, le 4 et le 5 qui sont déjà prévus, je viens de donner les dates. Et alors, en fait, La Voix de l'eau a été tournée simultanément en Nouvelle-Zélande et en Californie, ainsi que les autres. Hein. C'est Nouvelle-Zélande et Californie, voilà. Donc, c'est quand même... Alors là, bon, il est nommé meilleur réalisateur, James Cameron, au Golden Globes 2023. Il est déjà nommé hein, pour meilleur réalisateur. Alors, il a travaillé avec Amanda Silver, je l'ai dit. Hein. Il y avait Rick Jaffa aussi. Il y a Josh Friedman. Il y a Shanae Salerno. Voilà, qui seront là aussi pour les quatre autres, pour les trois autres suites, le 3, le 4 et le 5, qui seront là toujours, également, voilà. Donc c'est un, évidemment, c'est un film que non seulement il est très attendu, mais très réussi, bien sûr, de toute façon. Alors, mais on nous dit, les héros d'Avatar sont désormais parents, mais le danger rôde. Oui, ils ont des enfants désormais. Hein. Les deux, la famille Sully Tchèque et Netiri sont désormais des parents, ils ont des enfants. Mais bon, voilà, le danger rôde. Et on nous dit que James Cameron a mêlé avec bonheur, un bonheur classicisme, le classicisme et la technologie dans un esprit familial. Voilà ce qu'on nous dit. Il a mêlé tout ça beaucoup de bonheur. C'est quand même... Alors, le dernier plan d'Avatar en 2009, c'était assez mémorable. Hein. C'était un pic d'intensité qui marquait le passage définitif du soldat américain Jack Sully, qui était devenu paraplégique, dans son corps puissant et bleuté de Navy. Hein. Et là, au milieu de ce peuple extraterrestre, sur la planète Pandora, il allait pouvoir enfin vivre son histoire d'amour avec la belle Amazone, Neytiri. On s'en souvient, c'était la fin, le dernier plan d'Avatar en 2009. Voilà. Eh ouais. Alors, on a le retour de Sigourney Weaver aussi. Hein. Là, on a son... elle revient là, hein. Elle revient dans... Oui. Elle revient dans cet Avatar, c'est une grande, grande, grande actrice, hein. Beaucoup de talent. On l'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est un beau, beau, beau casting. Voilà. Et je pense que là, il va encore y avoir des queues invraisemblables devant les cinémas de proximité, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de problème. Eh oui. Et là, Kate Winslet, là, l'héroïne de Titanic, en fait, on la reconnaît en chef de tribu du peuple de l'eau. Voilà. C'est une vraie plongée, ce film, dans un rêve qui a pris vie. Voilà ce qu'on peut dire.
J'ai malheureusement pas de bande-annonce parce qu'elle passe pas très bien à la radio, en fait.
Non, elle est pas radiophonique du tout, cette.
Elle est juste musicale.
Voilà. Il y a le bruit de l'eau aussi. On voit les personnages. C'est délicieux, c'est magnifique. Mais chérie, si vous avez internet et que vous pouvez regarder la bande annonce, vous la regardez. Faut chercher.
Mais ils peuvent voir toutes les bandes annonces depuis le site.
Exactement. Ben voilà ce que je voulais que tu dises justement. Ben oui. Et voilà. Et ben oui.
Depuis le site sur le podcast de conversation autour de cinéma.
On parle du site de Radio Entre Deux Mers. Hein. Voilà.
Oh, oui, là, parce que sur Wikipédia, voilà. Je pense.
Voilà. Donc, un film que je pense que enfin, je crois que je n'ai pas besoin de forcer la note pour que nos chers auditeurs aillent voir ce film. Je pense qu'ils ont eux-mêmes ou alors. Non, je pense qu'ils iront. Ils iront voir ce film. Mais n'oubliez quand même pas Ernest, hein. Ernest et Célestine, franchement. Mmh. Je vous assure que c'est délicieux. Bon, ensuite, puis mon héroïne aussi d'ailleurs, très très beau film. Ben on va passer à oui, c'est un curieux titre d'ailleurs, ce film. C'est un titre de vêtement. Bah oui. Oui oui oui. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Oh là là, il y en a des vêtements. Eh bien, c'est un vêtement d'en haut. Voilà, qui s'appelle Corsage. Le titre du prochain film, c'est Corsage. Alors, Corsage, ça dure 1h53. C'est un drame historique, c'est un biopic, en fait, justement. Alors, c'est une production autrichienne, luxembourgeoise, allemande et française. Ils s'y sont tous mis. Et c'est Marie Kreutzer, la réalisatrice, scénariste, chef, monteur autrichienne qui s'y est collée. Elle a 45 ans, 10 ans de carrière, 5 tournages à son actif. Et là, alors, de quoi s'agit-il? Noël, on est à Noël 1877. Élisabeth d'Autriche, autrement dit Sissi, tout le monde la connaît, Sissi, fête son 40e anniversaire. Première dame d'Autriche, femme de l'empereur François-Joseph Ier, elle n'a pas le droit de s'exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ses attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d'exercice, de coiffure et de mesures quotidiennes de sa taille. Étouffée par ses conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. Et oui, alors là, on a un joli casting quand même, puisque il y a eu quand même 6 nominations au Festival de Cannes 2022, section Un certain regard, et le prix de la meilleure performance pour Vicky Krieps, qui joue le rôle d'Elisabeth. C'est une actrice luxembourgeoise, Vicky Krieps. Bon, on l'a déjà vue, on la connaît de toute façon, si on a l'habitude d'aller au cinéma. Et puis François-Joseph, c'est Florian, alors attention, son nom est un petit peu compliqué, Tex-Mexter, qui est un Autrichien, un artiste autrichien, Florent Tex-Mexter. Et puis on a Katharina Lorenz, qui est une actrice allemande. On a Jeanne Werner, qui est une actrice luxembourgeoise. On a une franco-britannique. Un franco-britannique qu'on connaît, on l'a déjà vu, on a souvent parlé de lui, Finnegan Oldfield. Ah ben lui, oui, il tourne beaucoup en France d'ailleurs, surtout. On a Aaron Fritz aussi, qui est un acteur autrichien et qui joue le rôle de Rodolphe, le prince héritier, le fils d'Elisabeth et de François-Joseph. On a Manuel Rubet aussi, qui est un acteur autrichien, qui joue le rôle de Ludwig II, le roi de Bavière. Eh oui, le pauvre Ludwig II, quand on connaît son histoire, un peu triste. Voilà, mais là, il s'agit en fait de Sissi. Alors, un jour, Sissi a eu 40 ans. Ben oui. Alors, le film raconte ce début de la fin. Ouais. Soit quelques mois dans la vie de l'impératrice d'Autriche. Voilà. Alors, ça se passait en 1877, avant qu'elle ne s'éclipse volontairement et qu'elle prenne des libertés, hein, des libertés radicales. C'est sûr, Elisabeth. Elle va passer une grande partie de sa vie à fuir Elisabeth, hein. Elle sera toujours un peu partout, voyageuse, elle ira un peu partout, une espèce de fuite en avant pour échapper à tout ce dont on vient de parler là dans le synopsis. Eh oui, c'était une vie quand même assez terrible finalement.
Chaotique, je dirais.
Ouais, ouais. Corsage. Très beau film. Alors, écoutez, mes chéris, si vous aimez les films en costume, si vous aimez l'histoire d'Elisabeth d'Autriche, si, bah, franchement, ne ratez pas ce film. Parce qu'il est magnifique. Magnifique vraiment, hein. On nous dit que c'est une réécriture de l'histoire. Sans guimauve, féminine. C'est une écriture féministe et audacieuse. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guimauve. Oui. Elle étouffe, si, à 40 ans. Elle étouffe.
D'ailleurs, voilà, on n'a pas de guimauve, mais moi, j'ai pas de bande-annonce.
Ah, t'as pas de bande-annonce parce qu'il n'y a pas de bande-annonce en français.
Voilà.
Les bandes-annonces sont en version originale, ce qui ne donne rien à la radio, évidemment. Mais, alors, c'est titré.
Mais pour les bilingues, elle est sous-titrée sur YouTube.
Voilà, mais le film est titré. Je vais donner comment il est titré quand même. Ça fait envie. Après, c'est titré, c'est-à-dire que c'est la critique. Quand je dis titré, c'est la critique qui écrit ça. C'est un biopic somptueux, une performance magistrale de Vicky Krieps, et c'est un film fascinant. Voilà ce qu'on nous dit. Oui, tu disais. Qu'on n'avait pas la bande en français.
On n'avait pas la bande en français, mais on peut la retrouver sous-titrée du coup via notre site.
Tout à fait. Absolument. Tu as raison, parce qu'elle vaut la peine.
J'invite tout le monde à aller sur notre site pour aller voir, ouais. Aller voir les bandes annonces qui ne passent pas du coup à la radio.
Ben, celles qui passent, qu'on peut revoir, on peut les voir, parce que là, bon, une seule fois, ça suffit pas toujours. Et puis, c'est bien d'avoir aussi un peu les images. Mais c'est vrai que cette bande-annonce, là, de Corsage est très belle. Et ça donne une idée du film qui est magnifique. Absolument.
Donc, c'est une raison de plus pour aller sur le site.
Tout à fait. Ah, complètement, là. Mais c'est vrai, oui. Ensuite, eh ben, on va passer. Oh, bah, c'est un joli titre, ça. Oh, oh, Stella est amoureuse. Ouais. Ça dure 1h50. C'est une comédie dramatique de Sylvie Verhaed. Alors, Sylvie Verhaed, c'est une réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 55 ans. Elle a 31 ans de carrière et 12 tournages à son actif, dont 9 longs métrages comme réalisatrice et un court métrage. Pour le reste, c'est des films dans lesquels elle a joué. Alors, elle a travaillé avec Flavie Delangle, avec Marina Foïce, qui est dans le film, on va voir, et avec Benjamin Biolay. Eh ben justement, c'est un très beau casting, on va le donner tout de suite. Hein. Flavie Delangle, c'est elle qui joue Stella et qui a donc participé au scénario. On a Marina Foïce qui a elle aussi participé au scénario. Et Marina Foïce, attention, elle interprète la chanson du film. Elle joue la mère de Stella. On a Louise Malek, on a Prune Richard. Dans les rôles principaux, Agathe Saliou, Léonie Dahan, la mort. Et on a Benjamin Biolay, le père, qui a participé au scénario. Et on a Claire Guinaud, également, dans les rôles principaux. Et il s'agit de quoi? Eh bien là, on va se transporter en 1985. Premier été sans les parents. Le soleil, les copines, les Italiens, le rêve. Retour à la réalité pour Stella, c'est l'année du bac. Et même si elle dit qu'elle s'en fout, elle sait bien que ça peut décider de sa vie entière. Plutôt mourir que de reprendre le bar de ses parents. Ah, surtout que, chez elle, son père s'est cassé avec une autre, en laissant les dettes et sa mère en déprime. Heureusement, il y a les sorties. La nuit, les rencontres, et puis l'amour pour rêver d'un autre monde. Alors, pareil, je pouvais pas passer à côté de ce film. Impossible. C'était pas possible, quoi. Voilà. Vraiment. Alors, elle a, est-ce que le paradoxe, c'est ce que nous dit la réalisatrice, le paradoxe, c'est que Stella est amoureuse. Et donc c'est vraiment un sujet pour un premier film, évidemment. Mais en même temps, elle nous dit, la réalisatrice, qu'elle n'aurait pas pu le tourner plus tôt parce que c'est son expérience de cinéma qui lui a permis de trouver la forme dramaturgique du film. C'est ça. Donc il fallait qu'elle attende. Pour le tourner. Alors, le film est dédié à la mère de la réalisatrice. Ah. Alors, elle nous dit que Marina Foïce, qui joue le rôle de la mère, justement, est très fidèle à ma mère dans ce film, alors que toutes les deux n'ont pas du tout le même parcours. La force des prolétaires, nous dit-elle, est de savoir rire des situations délicates. Stella et sa mère sont des combattantes. Malgré les galères, elles avancent. Sa mère lui a transmis ça. C'est sa manière de tirer sa fille vers le haut. Et ce film est aussi un hommage. Donc, l'hommage de la réalisatrice Sylvie Verhaed à sa maman. Voilà. Ben pourquoi je voulais pas passer à côté de ce film? Stella est amoureuse.
Et en plus, j'ai la bande-annonce.
Ah bon?
Donc je te laisse terminer et on passera à la bande-annonce.
Ah mais oui, c'est fini. On a dit l'essentiel. C'est une sélection officielle au Locarno Film Festival, c'est-à-dire à Locarno, et c'est titré solaire et musical. C'est un grand film. Voilà, voilà le titrage. Merci.
Donc,
pour la bande-annonce.
Tout de suite la bande-annonce de Stella est amoureuse.
On était partis seuls entre filles, sans parents. Et pour la première fois, j'avais eu un petit copain. Je parlais pas italien, il parlait pas français. De toute façon, j'aimais pas parler.
Pourquoi t'as pas appelé? Le téléphone, tu connais?
Super, le retour de vacances. L'année commençait bien.
Comment ça va à l'école? T'as un petit copain?
Non.
C'est bien ça. Les mecs, c'est des cons.
Tu passes le bac cette année ?
Arrêtez tous de me faire chier avec ça, là.
Tu veux travailler au café comme ta mère ?
Jamais.
Bah pourquoi ?
Qu'est-ce que t'aimes bien faire après l'école ?
Je fais de la danse.
Super, quel genre de danse ?
Enfin, devant la télé, chez moi, quoi.
Et papa, il est où ?
Bah tu vois, il est pas là.
Mon père s'est cassé, avec une conne.
Tu veux quoi pour ton anniv ?
Rien.
Rien, ça coûte pas cher.
Et ta mère, comment elle s'en sort ?
Bernard, viens m'aider, il y a les deux morues qui se foutent de ma gueule. Là.
Laisse tomber, hein. C'est André, c'est une star ici.
J'ai qu'il y a des problèmes chez toi, c'est la vérité, non ?
Mais t'es ma copine, t'es censée me défendre.
C'est chacun pour sa gueule.
Il y a une fac de danse, ça peut être super.
Ah, c'est bon, les études, tu passes ton bac, puis tu cherches un travail.
Je crois que je suis amoureuse.
C'était la bande-annonce de Stella est amoureuse, et cette fois, on passe sur un autre film.
Ah oui, tout à fait différent.
Au bord de la mer, je dirais.
Oui, n'est-ce pas ? Au bord de la mer. Celle qui n'a pas de vagues. Hein ? La Méditerranée, oui, qui n'a pas de vagues. Et le titre, c'est Fièvre méditerranéenne. Joli titre. Encore que le mot fièvre, bon, je sais pas. Ça dure 1h50, c'est un drame. Et c'est, tout le monde s'y est mis là aussi. Oui, il y a la Palestine, la France, Chypre, le Qatar et l'Allemagne pour ce film qui a été réalisé par Maha Haj, qui est une réalisatrice, scénariste, dialoguiste israélienne. C'est son deuxième long métrage. Le premier long métrage, elle l'a réalisé en 2017. C'était Personal Affairs, les affaires privées. C'était une chronique légère des Annie Croche ordinaires, on nous dit. Il y avait 8 nominations au Festival de Cannes 2016. Et il y avait Amer Hellel, l'acteur palestinien qui avait le rôle principal. Et il y avait Anan Hilo, qui est une actrice israélienne. Et ce film, Fièvre méditerranéenne, est titré, je le dis tout de suite après tout, c'est un petit bijou de comédie noire, un puissant pamphlet politique, une écriture savoureuse, aussi drôle que désespérée. Alors Maha Haj, la réalisatrice, se définit comme quelqu'un de mélancolique, une réalisatrice mélancolique, mais dotée d'un certain humour, quand même. Donc voilà ce qu'elle nous dit. Donc c'est quoi cette histoire quand même, parce qu'on l'a pas dit encore. C'est l'histoire de Walid. Walid a 40 ans, palestinien, vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux enfants. Il cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalaf, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables. Jalaf est persuadé d'aider l'écrivain en lui montrant ses combines. Walid, quant à lui, y voit l'opportunité de réaliser un projet secret. Alors là, évidemment, là on est quand même dans. C'est un film qui a été très récompensé. Il y a un prix et 5 nominations au Festival de Cannes 2022. C'est le prix du meilleur scénario dans la section Un certain regard. C'est pareil, je pouvais pas passer à côté. Et là, dans le casting, on retrouve celui qu'on avait dans Personal Affairs en 2017, Amer Lehel, qui est un acteur palestinien, il joue Walid. Et puis dans le rôle de Jalaf ou Jalal. En fait, je suis pas sûre que ce soit, c'est peut-être Jalal. Moi, je pense que c'est peut-être Jalal plutôt. Qui joue le rôle, celui qui joue le rôle de Jalal, c'est Ashraf Farah. Et puis on a Anat Hadid dans les rôles principaux. Et on a la Palestinienne Shaden Kamboura, qui est une actrice palestinienne. Voilà. Ah ouais. Donc. On est quand même dans un drame. Hein. Il n'y a pas de bande-annonce, tu n'auras pas de bande-annonce, car il n'y a que du VO. Il n'y a pas de version française. Ah oui, bah oui. Voilà. Donc, le film, en fait, le premier, donc, c'était l'identité des Palestiniens qui habitent en Israël. Hein, je parle du premier film qui était Personal Affairs. Et celui-là, c'est un, en fait, le Walid, c'est un arabe israélien de Haïfa qui n'échappe pas non plus à des sentiments de réclusion et d'expropriation. Voilà. C'est comme dans le premier d'ailleurs, hein, il y avait ce thème aussi. Donc c'est quand même voilà, mais j'ai dit, hein, c'est un drame, hein, donc en même temps il y a de l'humour. Effectivement, il y a de l'humour. Elle dit qu'elle est mélancolique et qu'elle a de l'humour, mais oui, c'est vrai. Alors la vie de Walid dans le film peut paraître réconfortante, c'est ce qu'elle nous dit, hein, et désirable même. Pour la plupart des gens, bah quoi, il a une femme aimante, il a des enfants heureux, il a des parents chaleureux, une belle maison, et pourtant, il a ça rejoint d'ailleurs, dit-elle, ma compréhension personnelle de la dépression. Il y a quelque chose qui manque toujours. Ça, c'est la déprime, hein, c'est clair.
Ah oui, bah oui.
Et Jalal, lui, au contraire, et non pas Jalaf, hein, comme je disais au début, ouais, on va dire Jalal, hein. Et il est opposé au personnage de Walid, effectivement. C'est une, voilà, Jalal, c'est un petit voyou, optimiste, plein de vie. Par contre, il a bien trop les pieds sur terre pour sombrer dans la dépression. Voilà, c'est ça. Ce sont souvent les gens, peut-être un peu trop rêveurs, qui parfois peuvent tomber dans la déprime. C'est vrai que lui, il a les pieds bien sur terre, le petit voyou, là. Voilà, il est le contraire, justement. Et de leur rencontre naît une dimension comique qui éclaire l'histoire ténébreuse de Walid. C'est ce côté comique, effectivement, entre deux personnages qui sont absolument, complètement différents, mais absolument, quoi. C'est le télescopage de deux mondes opposés. Voilà. C'est ça. Et ça donne d'ailleurs de la profondeur au personnage. Et ça fait émerger une solution à leur crise existentielle. C'est ça. C'est un beau film.
Maintenant, je te propose qu'on passe maintenant à In Viaggio.
Ah, donc, In Viaggio, le documentaire In Viaggio. Ah ouais. C'est un documentaire, oui, le temps tourne, le temps passe. On voit pas le temps quand on parle de cinéma. Alors, il vient du documentaire, n'est-ce pas, documentaire italien de Gianfranco Rossi, qui est un réalisateur, producteur, directeur de la photographie. Il est américano-italien, il a 59 ans, 28 ans de carrière et 6 tournages, 2 prix, 17 nominations, il fait du bon boulot. Son documentaire dure 1h20. Il a une nomination à la Mostra de Venise 2022 hors compétition. Et donc, ça se passe en 2013, hein, c'est pour son premier voyage, le pape François, parce qu'il s'agit du pape François, il se rend sur l'île de Lampedusa, où il fait appel à la solidarité avec les migrants. Voilà. De toute façon, depuis le début de son pontificat, il a déjà visité 53 pays, le pape François, et il s'exprime tour à tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, l'immigration et la condamnation de toutes les guerres. Et à travers un montage d'archives, Gianfranco Rossi retrace l'itinéraire du pape, témoin de la misère du monde et toujours plus conscient des limites du réconfort de ses paroles. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas passer à côté de ce documentaire. Et puis je voulais également quand même citer un film qui est quand même à voir, qui s'appelle Poète. Poète, c'est un film d'un réalisateur qui est kazakh. Hein, il est né au Kazakhstan. D'ailleurs, c'est un film kazakhstan. Il s'appelle Darezan Omirbayev. Il a 64 ans et son film Poète dure 1h45, c'est un drame. Voilà, et c'est l'histoire d'un poète kazakh sans le sou qui erre en décalage avec le monde moderne. C'est un hymne loufoque à la création. Ce film Poète, je voulais quand même en parler, dire Il est quand même à voir. Et puis je voulais parler de ce film aussi, Les années Super 8, de Annie Ernaux et David Ernaux Biot. Alors Annie Ernaux, on la connaît forcément maintenant, puisque elle est, c'est le prix Nobel 2022 de littérature. Elle est écrivaine et elle est professeure, enfin elle était professeure, elle a 82 ans. Et David Ernaux Briot, qui a travaillé avec elle, c'est son fils. Et son fils, on le connaît parce que c'est un journaliste scientifique qui a contribué aux émissions comme par exemple E égale M6 et C'est pas sorcier. Et donc là, il a réalisé Les années Super 8. C'est le film zoom sur une brève période de la vie d'Annie Ernaux de 1972 à 1981. Alors les images Super 8 montrent l'autrice hein, au féminin, de l'événement en jeune mère lisse et en femme secrètement taraudée par l'écriture, entre un Noël en famille et des vacances en Ardèche, ou plus étonnant, dans l'Albanie, communiste. C'est l'histoire d'une autrice en construction sur laquelle l'écrivaine confirmée pose aujourd'hui sa langue précise. Un très très beau documentaire, hein, Les années Super 8. Poète, par contre, c'est un long métrage de fiction, hein, bien sûr. Là, je voulais quand même les citer, ces deux films.
Mais t'as eu bien raison.
Voilà, parce qu'il me semblait très chouette. Est-ce que j'ai le temps? Il y avait aussi Despedida, qui est un film qui est brésilien, un film brésilien de la réalisatrice Luciana Mazzetto, et qui est une réalisatrice, productrice, monteuse et scénariste brésilienne, et Vinicius Lopez, qui est un réalisateur, scénariste, producteur brésilien, metteur en scène. Despedida, c'est pareil, ça se passe dans le sud du Brésil. Anna, 11 ans, assiste à l'enterrement de sa grand-mère, alors que le carnaval bat son plein, l'heure est venue pour la fillette affronter le passé familial. Elle est tirée du lit par le fantôme de sa mamie, réputée être une sorcière, et elle est propulsée, telle Alice, de l'autre côté du miroir, en l'occurrence au cœur d'une forêt mystérieuse truffée de dangers. Il y a des sirènes, il y a des crocs acérés, du moloche chargé de protéger le monde des morts et le souvenir des adultes. C'est de la féerie, la psychanalyse qui se télescope en fait dans ce conte enluminé, gentiment horrifique, suffisamment consensuel pour ne pas rebuter les marmots impressionnables, puisqu'on dit que ce film est bon à partir de 10 ans. Voilà pourquoi on dit ça, quoi, que ça ne rebute pas les marmots impressionnables. On a Ida Celina, Patricia Sozo et Anaïs Grala Wegner, qui est une actrice brésilienne de 15 ans actuellement et qui joue le rôle d'Anna, puisqu'à l'époque elle avait 12-13 ans, à l'époque du tournage. Voilà. Il y a des images animées, il y a des danses tribales, il y a des ombres chinoises. Le merveilleux s'incarne de mille manières. C'est une mignonne, nous dit-on. Leçon d'initiation qui célèbre le pouvoir de l'imaginaire et le courage enfantin, capable de faire éclater les non-dits et de résoudre les conflits, puisque l'héroïne a 11 ans. Donc, à partir de 10 ans, voilà ce qu'on nous dit. Je voulais en parler. Despedida.
C'est quasiment l'heure, donc je te propose qu'on en reste là.
Oui, bien sûr. Ben là, on a tout dit à peu près.
Voilà.
N'est-ce pas? On a tout dit. Bon, bah, écoute, on se dit à la semaine prochaine, bien sûr.
Ouais, bah ouais.
Passe une bonne semaine. Et vous aussi, mes chéris, chers auditeurs, passez une excellente semaine. Soyez heureux, heureux, heureux. Hein, vivez bien votre jour, le jour qui passe, carpe diem. Hein, ça, c'est important. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence. à l'Aréole, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
Entre Garonne et Dordogne, REM 98.4 FM. Radio Entre-deux-Mers, à Blasimont sur le 98.4 FM.
À Sauveterre de Guyenne, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
REM, l'Entre-deux-Mers, à sa radio. REM, votre radio locale.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts.
Rien à foutre, faut me lâcher. Pas le temps pour les regrets, les doutes. J'suis comme je suis. J'ai besoin de rien moi, pour l'instant ils sont là. Mais quand tout ira mal, ils viendront me jeter la pierre. Ils savent pas d'où on vient, ce qu'on a fait. Combien on a trimé, on a taffé. Maintenant que les portes sont ouvertes, ils viennent me voir normal pour me demander la clé.
Mais j'aimerais leur dire oui, mais non. Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Je crois qu'ils sont incapables d'écrire mon sacré foutu prénom. J'aimerais leur dire oui, mais non. Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Je crois vraiment c'est qu'une bande d'incapables. J'ai décidé de partir lâcher, de foutre en l'air sur ma roue. Cette fois c'est promis, juré, craché. Même si je galère, je vous dis à tout. J'en ai plus rien à foutre, faut me lâcher. Pas le temps pour les regrets, les doutes. J'suis comme je suis, on peut pas m'attacher. Faut qu'on me libère, je vous dis à tout. J'ai décidé de partir, tout lâcher.
J'aimerais leur dire oui, mais non. Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? J'crois qu'ils sont incapables d'écrire mon sacré foutu prénom. J'aimerais leur dire oui, mais non. Est-ce qu'ils me connaissent vraiment?
Et j'ai décidé de partir lâcher, tout foutre en l'air sur ma route. Cette fois c'est promis, juré, craché. Même si je galère, je vous dis à tout. J'en ai plus rien à foutre, faut me lâcher. Pas le temps pour les regrets, les doutes. Je suis comme je suis, on peut pas m'attacher. Faut qu'on me libère, je vous dis à tout. Et j'ai décidé de partir lâcher, tout foutre en l'air sur ma route. Cette fois c'est promis, juré, craché. Même si je galère, je vous dis à tout. J'en ai plus rien à foutre, faut me lâcher. Pas le temps pour les regrets, les doutes. Je suis comme je suis, on peut pas m'attacher. Faut qu'on me libère, je vous dis à tout. J'ai décidé de partir, tout lâcher.
J'aimerais leur dire oui, mais non. Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Je crois qu'ils sont incapables d'écrire mon sacré foutu prénom. J'aimerais leur dire oui, mais non. Est-ce qu'ils me connaissent vraiment?
Et j'ai décidé de partir lâcher, tout foutre en l'air sur ma route. Cette fois c'est promis, juré, craché. Même si je galère, je vous dis à tout. J'en ai plus rien à foutre, faut me lâcher. Pas le temps pour les regrets, les doutes. Je suis comme je suis, on peut pas m'attacher. Faut qu'on me libère, je vous dis à tout.
À Saint-Ferme, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
Vous écoutez 100% Nouvelle Scène sur REM.
Ils vivent dans les rues, les squares et les jardins. Son regard est perdu, il fait son bonhomme de chien. Et au pas de carrière pour l'avenir, car hier n'est plus à venir. Il vit le moment présent, après l'hiver vient le printemps. Il gagne un peu d'argent, oh pas beaucoup évidemment. Juste assez pour ne pas mourir, le temps d'avoir des souvenirs. Il croit pas trop en Dieu, et puis même s'il les croyait, c'est déjà dur seul à seul alors. Pensez seul à deux, ils vivent dans les rues, les squares et les jardins. Marchant, regard est perdu, il fait son bonhomme de chien. Ils vivent dans les rues, les squares et les jardins. Oh, 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 ma maillot. Marchant, regard est perdu, il fait son bonhomme de chien.